À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Françoise Huguier, photographe éventuellement, mais très curieuse.
Deuxième épisode, l'apprentissage de la liberté. Bonsoir Françoise Huguier.
Bonsoir.
Hier, vous nous avez raconté votre captivité dans un camp Viet Minh quand vous étiez enfant. Vous êtes revenu en France avec votre famille en 1953, soit 3 ans après cette histoire. Vous êtes allé en pension au couvent des Oiseaux, chez les Augustines, comme vous le disiez hier, en région parisienne, jusqu'à la première. Vous étiez déjà chez les Sœurs des Oiseaux à Dalat, au Vietnam. C'était comme un autre enfermement pour vous, cette pension ?
Pas du tout, parce qu'en plus, à partir de la 5e, on a eu la méthode Montessori. Puis on avait un grand parc, et on avait des profs formidables. Notamment, on avait un prof de français qui était un curé, qui écrivait dans Le Monde, et qui, lui, nous a appris Rousseau et Voltaire à sa manière. C'était formidable. Et surtout la méthode Montessori, parce que on vous donnait le travail pour 15 jours, et puis vous vous organisiez comme vous voulez, et tous les matins, vous rentrez votre devoir, mais devant un seul prof, devant un prof. Donc un élève, un prof, vous rendez compte ? C'est formidable.
C'était déjà une petite liberté.
Ah, c'était tout à fait une liberté. Alors moi, évidemment, moi j'avais des copines qui après ont fait Sciences Po, qui elles, au bout de 4 jours, avaient tout terminé. Moi, j'attendais évidemment les 4 derniers jours pour faire. Voilà.
Vous avez gardé une sorte de fascination pour les images pieuses et pour les icônes religieuses. Vous avez même fait une série sur les nonnes, bien plus tard, en Colombie. C'était en 1993 que votre livre sur les nonnes a paru. C'est de ces années-là, chez les Sœurs des Oiseaux, que vous avez gardé.
C'est-à-dire que quand je suis arrivée à Bogota, j'ai vu les mêmes religieuses avec les vêtements comme avant. On ne voit plus du tout ici. Et je me suis dit, oh là là. Et puis en plus, j'ai encore le livre de messe de ma grand-mère avec les images pieuses. Donc je me suis dit, ce serait drôle d'aller dans les couvents et dans les congrégations, de faire des photos. Et de faire des photos comme les images pieuses du missel de ma grand-mère. C'est ça l'idée, oui.
Bon, alors revenons à ces premières années, justement, de vos années parisiennes, puisqu'elles ont énormément compté. En seconde, vous commencez à aller beaucoup au cinéma, là aussi, grande liberté. Vous étiez une vraie cinéphile, c'est le début de la cinéphilie, vous alliez beaucoup au cinéma. Vous avez d'ailleurs envie de passer l'IDEC, l'ancêtre
oui,
de la famille.
Oui, exactement. Oui. C'est-à-dire qu'à partir de la seconde, j'étais à l'école alsacienne. Et donc l'école alsacienne, c'est dans Paris. Donc, en plus, mes parents habitaient dans le quartier latin. Et donc, il y avait plein de cinéma, quoi. Cinéma d'auteur, il y avait plein de cinéma. Donc je passais, parfois je loupais les cours et j'allais au cinéma. Et c'est comme ça, je sais pas pourquoi, j'ai toujours, depuis toute petite, j'ai beaucoup aimé. Alors, oui, c'est vrai, chez les Bonnes Sœurs, on nous passait des films. Par exemple, on nous a passé Graines de violence, faut le faire quand même, chez les Bonnes Sœurs. Parce que les films, elles étaient sûres qu'on allait voir certains films pendant, parce qu'on sortait tous les 15 jours. Donc, au lieu qu'on aille les voir en douce, et puis qu'après, il n'y a pas de discussion, tandis que là, elle est passée. Et comme ça, il y avait une discussion après.
Vous en parliez après ?
Oui. Ah non, elles étaient très, très malines. Très, très malines.
Mais le cinéma, ça a toujours énormément compté pour vous.
Énormément.
C'est un moteur, c'est une source d'inspiration. On en parlera dans la dernière de nos émissions, Françoise Huguier, de ce cinéma. Et donc, quand même, vous avez eu envie de devenir réalisatrice en passant l'IDEC ?
Oui. Ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, il y avait 2 bacs. Il fallait le premier pour passer au deuxième. Après, il y avait à l'université ce qu'on appelait propédeutique. Et on refaisait exactement toutes les matières. Et puis, moi, j'ai voulu faire du cinéma parce que j'étais folle de cinéma. Et donc, il y avait l'IDEC. Et là, j'ai vu le concours d'entrée. C'était, je connaissais pas encore Serge Danet, malheureusement. Et il y avait le concours d'entrée, c'était encore que du texte. Et là, je me suis dit, ah non, ça va. Et puis, je suis tombée amoureuse de actuellement mon mari. Et lui faisait de la photo tous les week-ends. Il faisait les arts décoratifs. Et avec des copains, ils allaient en Italie, ils allaient à Chartres, par exemple. Ça va vous amuser. À Chartres, il y a un pèlerinage à Chartres qu'on faisait à pied. qu'on partait de Paris jusqu'à Chartres à pied. Bon, c'est un pèlerinage. Moi, je m'en foutais des pèlerinages. Mais je l'ai suivi et je faisais plein de photos et lui faisait des photos. Et donc, je me suis lancée vers la photo. Et au début, je faisais des photos ridicules que j'ai encore, qui sont l'ombre des statues de la République ou de la Nation, et ou alors des ombres des feuilles, enfin des trucs ridicules. Quoi.
Vous avez fait vos gammes dans Paris.
C'est ça.
Mais
voilà.
Disons que c'est pas ça dont vous êtes le plus fier dans votre carrière de photographe.
Et alors, et surtout, j'ai essayé de trouver du boulot en tant que photographe. Alors, comme j'avais pas fait d'école de photo, rien du tout. Donc du coup, j'ai essayé de travailler dans des studios photo. Et on m'a dit, t'es une femme, tu peux pas porter les balcars, les lampes, etc. Bon, d'accord. Du coup, j'ai travaillé comme ouvrière dans un laboratoire photo pendant 3 ans. Et puis, pour développer des films. Hein. Et au Gérard, il y avait une école photo et on pouvait passer le CAP. Donc j'y allais, je partais à 5 heures du labo. Et j'ai eu un CAP de photo qui me sert à rien. Enfin bon... Et en même temps, ça me permettait de sortir du noir, quoi, parce que j'étais complètement dans le noir. Quand on développe, on est dans le noir.
Il a quand même fallu attendre que Patrice, votre mari,
parte.
Futur mari, je ne sais pas si à cette époque, c'était, en tous les cas, c'était votre compagnon, parte en Indonésie, à Jakarta, pour que vous le suiviez. Et ça, ça a été le début d'une très longue série de voyages en Asie.
Oui, ça a été Singapour, Kuala Lumpur, effectivement, Jakarta. Et donc,
vous êtes parti avec votre appareil.
Je partais avec mon appareil, et puis parce qu'en fait, ce que je voulais faire, c'est que je voulais retourner au Cambodge. Il y avait les Khmer Rouges, donc c'est pas possible. Donc j'ai tourné autour. Donc effectivement, ça a commencé par l'Asie du Sud-Est, et puis l'Indonésie. Donc effectivement, Sumatra, Java, toutes les autres îles, parce qu'il y a beaucoup d'îles. Et là, ça m'a passionné parce que c'est un pays absolument passionnant.
Et c'est d'ailleurs le début non seulement d'une longue série de voyages en Asie, mais aussi le début de votre carrière professionnelle, puisqu'au retour de ce voyage en Indonésie, vous avez pu vendre votre premier reportage photo.
Oui, exactement. Alors, parce que à chaque fois, je trouvais une idée. Et puis, il y avait un journal, j'avais une amie qui travaillait dedans, qui était en pension avec moi, qui s'appelait Sentidée. Et il y avait un sujet de 10 pages de curiosité. Donc effectivement, alors je revenais avec une idée de reportage que j'avais fait, qui était par exemple les marionnettes en cuir. Donc ça s'appelait les dentelles, quoi, les marionnettes en dentelle. Le thé, tous les panneaux publicitaires et les affiches de cinéma, et les panneaux publicitaires en bambou, qui étaient à Singapour et à Jakarta et aussi en Indonésie, qui étaient absolument magnifiques. J'ai ressorti les photos là récemment parce qu'ils étaient en diapo. C'est extraordinaire. Moi, quand je les monte maintenant, je les ai montrés à mon labo, là, avec mon tireur Christophe, avec qui je travaille tout le temps. Il était sidéré, quoi. Et je suis retournée, c'est évidemment plus comme ça. Donc, je ramenais des petits sujets comme ça. J'avais fait les jardins labyrinthes aussi en Angleterre. Et puis, à un moment, j'ai plutôt eu envie de faire du social. C'est comme ça que j'ai atterri à Libération. Voilà.
À Libération et puis aussi aux Philippines. Parce qu'aux Philippines, vous êtes allé sur les traces d'une ethnie de coupeurs de tête, tatoués, les Igorotes.
Les Igorotes, oui.
Grande expérience. Oui. Et effectivement, premier reportage social, disons. Vous quittiez les curiosités.
Oui. Et en plus, j'ai une photo de lui. Alors, ils ne sont pas très grands, hein. Donc, il avait mis une pierre pour être à la même hauteur que moi.
Le chef du village ?
Le chef du village, et il disait, c'est ma femme.
Et vous avez demandé en mariage, hein ?
Oui, c'est ça.
Une semaine, hein ?
Il m'a demandé en mariage, oui. Oui, c'est ça.
Vous avez dit non, je suis déjà mariée.
mais la
photo, vous l'avez faite.
C'est pas grave, hein.
La photo, vous l'avez faite. Oui. Vous la qualifiez de fétiche, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. C'est ma photo fétiche, oui.
Bon, mais ça, c'était une première expérience. Le véritable déclencheur, Françoise Huguier, ça a été le Japon.
Oui.
Avec évidemment un film comme fil conducteur, Voyage à Tokyo de Ozu, bien sûr. Mmh. Et là, vous y êtes allé deux fois seul, en 1980-1982. Mais le premier vrai voyage, en tous les cas le plus important pour vous, a été avec Serge Danet, que vous aviez rencontré à Libération en 1982.
Oui.
Le Japon, vous nous racontez un peu ?
Eh bien, le Japon, tout le monde disait, mais c'est Japon, c'est complètement américanisé. Ben oui, parce que comme on nous racontait que la guerre, les Américains étaient là, etc., etc. Et en fait, quand on est arrivé avec Serge, on dit, mais c'est pas du tout l'Amérique, hein. C'est vraiment le Japon, c'est formidable. En plus, Serge était très grand Et les Japonais étaient pas très grands, ils sont un peu plus grands maintenant. Et donc les portes, ben Serge, il était obligé de baisser la tête, quoi. Et en fait, bon, Serge avait une culture cinématographique beaucoup plus que moi.
Et il donc, était critique cinéma.
C'était critique de cinéma, d'abord au Cahier du cinéma, puis après à Libération.
À
et donc c'est grâce à lui que j'ai rencontré Oshima, Kurosawa, le scénariste d'Ouzou. On est allé à Osaka sur toutes les traces aussi de certains cinéastes. Et puis là où j'ai eu de la chance, c'est que Kurosawa, avant qu'il filme Ran, donc on a été chez lui avec Serge. Et heureusement, il y avait l'attaché culturel portugais qui parlait japonais, parce que la traductrice japonaise, vous savez, c'est très respectueux, donc elle n'osait pas poser les questions. Et heureusement qu'il était là. Et là, donc, on a passé une journée chez Kurosawa, chez lui, et franchement, c'était mon rêve, quoi. C'était mon rêve, évidemment. Évidemment. Évidemment, c'est comme Imamura aussi. Imamura qui a eu deux fois le prix à Cannes, hein. Et Imamura, c'est pareil. Avec, j'ai dit à Serge, il faut absolument qu'on y aille aussi, quoi. Donc
ça, c'était les premiers portraits.
Les premiers portraits.
Premiers vrais portraits de personnalité, de cinéma, si. Aussi de couture, de mode, puisque vous avez
c'est
rencontré
ça, oui.
Issey Miyake,
Imamoto. Et puis à Calcutta avec Satyajit Ray. Mais j'étais pas avec Serge. Mais Serge lui avait fait un mot. Parce que rencontrer Satyajit Ray, c'est pas évident à Calcutta. Donc Serge lui avait fait un mot, et donc il m'a dit, et j'étais avec un interprète qui lui a embrassé les pieds quand même devant moi, et donc j'ai plusieurs photos, et j'ai été sur son dernier tirage, il est mort après, voilà. Et j'ai été sur le tournage du Salon de Musique, c'est un film que j'adore. Satyajit m'a dit, ben tiens, c'est à 300 km de là où il était tourné de Calcutta. Vas-y, alors on y a été en bus. Et en fait, je suis arrivé, c'est un camp militaire. Je me suis dit, oulala, catastrophe. Et en fait, au bord du Gange. Et en fait, c'était, le palais existe toujours. Le propriétaire du palais était là. Et puis, j'ai vu, évidemment, le responsable militaire. Il m'a dit, il n'y a aucun problème. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance, quoi.
Vous disiez que vous aimiez beaucoup cette région du monde, hein, l'Asie du Sud-Est, donc là avec le Japon. De fait, dans les années 80, vous avez fait de nombreux voyages au Japon, oui. En Corée, oui. En Malaisie, au Laos, oui. En Birmanie, oui. À Shanghai également. Et puis dans les années 2000-2010, vous y êtes revenu. Vous étiez en résidence d'artiste à Singapour. Vous avez amorcé un voyage à ce moment-là au cœur des classes moyennes en Asie, oui. Du Sud-Est.
Ben, quand j'ai photographié dans les années 75, 78, 80, il n'y avait pas le boom économique qu'il y a eu après. Et donc, quand je me suis présenté pour l'Académie des Beaux-Arts, là, pour le prix La Traite de la Charrière, j'ai proposé justement de retourner à Singapour, à Kuala Lumpur et à Bangkok pour les classes moyennes, parce que ça n'existait pas du tout.
Et comment on photographie les classes moyennes alors ? Ça veut dire quoi ?
Ah ben alors, et vous savez, c'est très important d'avoir des connexions dans le pays. Donc d'abord, moi je lis beaucoup avant de partir, et puis surtout, quand j'avais été commissaire pour Photoké, pour le Quai Branly, il y avait un photographe qui a fait ses études, thaïlandais, qui a fait ses études à Londres, dans une super bonne école. Et je suis restée toujours en contact avec lui. Et donc, avant de partir, je lui ai écrit et je lui ai dit, écoute, voilà, je veux faire ça. Bon, j'aimerais bien que tu me trouves une interprète, parce que je parle pas thaïlandais. Et surtout, c'est que tu peux me trouver un certain nombre de classes moyennes. Donc effectivement, il m'a préparé tout et je suis arrivée dans un quartier où il faut montrer pour rentrer sa carte d'identité, etc. Vous savez, c'est l'américaine. Et donc j'ai fait toutes les familles aussi, comme ça. Mais c'est grâce à Lec, hein. Et puis après, les tatouages, c'est pareil. Mon interprète, j'ai dit, je veux faire les tatouages. Alors on est allé au marché, on est allé... Voilà, c'est... Les interprètes, c'est très important. Très important.
Et vous aviez aussi des sujets.
Oui, j'avais des sujets précis.
Sujets, par exemple, la K-pop.
La
en
K-pop.
Malaisie, un sujet sur la K-pop, c'était en plein boom de la K-pop.
De la K-pop, moi je ne connaissais pas.
Mais personne ne connaissait vraiment à ce moment-là.
Et non, c'est grâce à un jeune homme qui est maintenant encore, qui est vraiment photographe maintenant, qui est d'origine chinoise, Ran, et lui m'a dit, tu sais, il y a G-Dragon qui vient. Ah bon, j'ai dit, c'est qui G-Dragon ? Ben, tu sais, c'est une grande star de la K-pop. Alors je lui dis, ben allons au concert. Alors le concert, c'était quelque chose, parce qu'ils étaient tous habillés à la K-pop et tout. non seulement les chanteurs, mais en plus l'orchestre, mais en plus les gens qui regardaient, une folie furieuse. Et donc ça m'a donné l'idée, après, avec lui, de, parce qu'il y a un shopping mall, un grand magasin, quoi, qui en fait spécialisé dans tous les vêtements et les bijoux K-pop. Et même les lentilles, hein, parce que dans mes photos, elles ont des lentilles. Il y en a même eu qui a des lentilles comme un chat, vous savez, les yeux de chat. Et après, j'avais toute une série comme ça de K-pop.
Le K-pop, et puis aussi sur toute cette mode des adolescents,
oui, oui.
Le paraître, l'esthétique en Corée, et puis aussi la chirurgie esthétique, justement.
Ben en Corée, oui.
C'est pas seulement les lentilles de chat, hein, ouais. c'est le visage qui change, c'est le corps qui change, c'est des très jeunes filles et des très jeunes garçons.
Oui, parce que quand ils ont leur bac, l'équivalent du bac, les parents payent la chirurgie esthétique. Parce que moi, je m'étais renseignée auprès de quelqu'un des hautes études, qui avait fait tout un travail sur l'esthétique. Et en fait, avant, du temps des empereurs, il n'y avait pas la chirurgie esthétique, mais il y avait une certaine manière de se maquiller en Corée. Et donc, la chirurgie esthétique arrivant, pour trouver un mari, pour trouver une bonne place chez Samsung, par exemple, il faut avoir le physique, quoi. Les yeux débridés, le nez un peu en trompette, hein, le menton en V, très important, comme nous. Parce qu'ils n'ont pas le manteau en V, donc il faut le manteau comme ça, en V. Et puis, maintenant, la grande mode, c'est les cernes aussi.
Donc, il y a le corps, déjà, on va y revenir. Hein. Le corps, les vêtements. Les vêtements que vous avez retrouvés, Françoise Huguier, comme phénomène de mode en Indonésie à travers le hijab. Vous avez fait toute une série sur le hijab comme phénomène de mode en Indonésie.
Ben oui, parce que j'avais fait un workshop à Jakarta, et il y avait une fille qui avait un hijab... je lui dis, tu sais, je pars à Bandung et j'aimerais bien. Bandung, c'est la ville de la conférence des non-alignés. Hein. Bon, je voulais absolument, parce que moi, quand j'en parle des non-alignés, les gens me regardent avec des yeux ronds. Hein. Et en fait, il y a un musée. Hein. Ça a été très, très important. Donc, alors, je voulais absolument aller à Bandung. Donc, j'ai fait aussi un workshop, puis j'ai exposé. Et puis, cette fille que j'avais eue en workshop m'a dit, tu sais, j'ai toute une série d'amis, je vais les prévenir. Et puis, je les ai rencontrés et je leur ai dit, je voudrais faire un truc sur le hijab. Elles m'ont dit, écoute, il n'y a pas de problème. En plus, il y a un grand magasin. Donc, on y a été. Et puis, elle choisissait le hijab de couleur ou la robe de couleur. Et puis, parce qu'il y a des stylistes. Hein. Et puis, tout d'un coup, il y en a une qui était en Hello Kitty, en entier. Alors là, j'étais un peu sidérée, quoi. Donc, tout est bon, quoi. Et donc, j'ai fait ça. J'ai fait aussi les orchestres de métal, aussi. Parce que l'Indonésie, il y a 5000 groupes de métal. Moi, j'adore cette musique, hein. Oui. Et j'en écoute, hein, tous les jours. Et il y a 5000 groupes. Il y a 5 festivals de métal. Et même le président de la République est un guitariste de métal actuel, hein.
On voit à travers ce que
alors vous racontez. Je rêverais de la photographier, évidemment.
C'est possible, vous allez y retourner pour le photographier.
Oui, je vais y retourner, bien sûr.
Ce qu'on voit là se dessiner, Françoise Huguier, c'est l'éclectisme, hein, de votre regard. Et en même temps, si je me penche sur le corps et le hijab comme phénomène de mode, on peut se dire que là, on est dans les années 2010. Vous aviez l'œil. Pourquoi vous aviez déjà l'œil là-dessus? Parce que vous aviez, dans les années 80, fait des photographies de mode. Alors, la grande époque de la mode et des grands couturiers de l'époque, Gautier, Lacroix, Miyake, Yamamoto, Yves Saint-Laurent, Lagerfeld, Mugler, tous les grands de l'époque. Quand vous étiez au tout début des années 80 à Libération, vous avez photographié la mode. Ça a donné d'ailleurs lieu à un livre qui s'appelle Sublime, avec un S. Racontez-nous, ces années-là sont des années folles, en fait.
Ben oui, parce que à Libération, évidemment, il n'était pas question de parler de mode. Hein. Et puis, tout d'un coup, il y a eu tout un groupe avec Michel Cressol, Gérard Lefort.
Maud Molineux.
Maud Molineux, effectivement. Et donc, ils ont décidé, Serge Lee, de commencer à faire...
Directeur
de Libération, de commencer à faire de la mode. Et c'est comme ça que c'est venu. Et effectivement, Christian Cojol, qui était
le directeur du service
photo.
Qui vous a fait d'ailleurs entrer à Libération des débuts.
Exactement. Et en plus, comme j'avais fait des photos d'Issey Miyake, et Issey m'avait donné un carton d'invitation pour ici, Donc j'ai dit à Christian, ben tu vois, j'ai une carte d'invitation, donc je peux y aller. Et après c'est parti comme ça. Et après ben ça s'est vu à Marie-Claire, ça s'est vu à Paris Match. Donc Marie-Claire m'a demandé de faire ça pendant des années. Le Vogue aussi, le L non, parce que quand on travaillait pour Marie-Claire, on pouvait pas travailler pour le L.
Mais quand vous travailliez pour Libération, vous pouviez travailler
oui,
pour ces autres journaux, en revanche.
Oui, tout à fait. Donc quand j'ai commencé la mode, alors c'était en noir et blanc pour Libération, puis après j'ai fait en couleur. Et quand j'ai commencé la mode, tous mes copains photographes m'ont dit « Oh là là, dis donc, c'est superficiel ». Alors moi je leur disais « Oui, c'est superficiel, ben viens dans les ateliers. Tu sais, pour faire une boutonnière, il faut 30 heures. Il n'y a pas de machine à coudre dans la haute couture, hein, dans les ateliers. C'est pas superficiel. Les ateliers, la plumassier, les brodeurs, etc. C'est pas superficiel du tout. C'est vraiment un art. C'est unique au monde. Alors arrête de me dire que c'est superficiel, quoi. C'est toi qui es superficiel. »
C'était dur en même temps, hein, à l'époque.
Ah bah c'était pas évident. Puis surtout,
la mode était à la mode, mais quand
il y avait très peu de filles. Il y avait très peu de filles. Et puis moi, je me mettais pas au bout du podium, hein. Parce que là, c'était la guerre. Les mecs arrivaient 3 heures avant, avec des pieds, etc. C'était la guerre. Donc moi, je me mettais plutôt à la sortie quand les filles sortaient. Et au début, je venais sans assistant, parce que j'avais pas besoin d'assistant. Et j'avais un photographe. Alors, il suffisait que j'aille backstage, ben c'est le coup du lapin. Je retrouvais un mec à ma place, quoi, un photographe à ma place. Donc je lui dis, pousse-toi. Il dit, non, c'est ma place. Bon, et après, je me suis dit, je vais avoir un assistant pour garder la place. C'est ce que j'ai fait. Et puis, il y avait des photographes qui arrivaient, qui avaient des télés, et ils faisaient exprès...
Téléobjectif, vous voulez dire ?
Téléobjectif. Ils faisaient exprès de mettre mon téléobjectif devant mon appareil. Oh là 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 là. Alors, ça m'a... C'est la guerre. Hein. Ça a été la guerre. Et alors, une autre fois, c'était un défilé de Karl Lagerfeld, Chanel, et qui avait reconstitué au Grand Palais l'intérieur d'un avion. Et moi, je voulais, parce que je connaissais les services de presse, je voulais être près du premier rang, quoi. Elles m'ont dit, oh, c'est pas possible, parce c'est l'arrivée des clientes russes, hein. C'est pas possible, François, etc. Bon, je lui dis, bon, ben, je vais arriver tôt, puis je vais me mettre au bout. Et là, il y avait un photographe que je connais très bien, et j'ai eu le malheur de pousser un tout petit peu son pied, et il m'a foutu une paire de baffes. Ben, je lui ai donné un coup, vous voyez, quoi. Voilà. Il a fait ouille. Et donc, l'attaché de presse est arrivé. Elle m'a dit, qu'est-ce qui passe? Je lui ai dit, écoute, tu m'as foutu une paire de claques. Et donc, elle m'a dit, bon, ben, viens t'asseoir au début à côté de la cliente russe. Voilà. C'est la guerre, hein.
Ouais, tant et si bien que, alors, parce que vous étiez obligé de courir partout, que votre ami Gérard Lefort de Libération vous a surnommé la fiancée du marsupilami, parce que vous couriez partout.
On est obligé, hein.
Mais parlons un peu des photos et de ce livre sublime, hein, que vous avez réalisé, qui est effectivement un livre sublime, Françoise Huguier. Sur les photos, la grande particularité de vos images, c'est qu'on ne voit pas le modèle. C'est centré sur le vêtement.
Le vêtement, et je coupe souvent les têtes. On m'appelait, Christian Cogem m'appelait une coupeuse de tête. Ben, par exemple, comment elle s'appelle, la femme de Sarkozy, là, je l'ai vue débuter.
Carla Bruni.
Carla, je l'ai vue débuter.
Vous lui coupiez la tête à Carla Bruni.
Oui. Et puis, ben, je ne sais pas qui c'était, moi. Et puis, surtout, j'ai des photos d'elle et des photos, les dernières photos quand elle défilait. Mais il y a une sacrée différence de corps, hein, je peux vous dire. La chirurgie esthétique, ça a marché, hein.
Voilà pourquoi après, quand vous êtes allé photographier la K-pop en Malaisie,
mais elle
en Corée,
était,
vous
elle
retrouvé
était,
ça.
Elle était respectueuse avec les habilleuses et tout. Parce qu'il y en a qui n'étaient pas du tout respectueuses avec les habilleuses. Moi, je voyais backstage. Et puis, aussi, on nous disait souvent, les photographes, prenez pas de photos des mannequins à poil. Alors moi, je disais, mais je suis pas venue pour photographier les filles à poil. Moi, je suis venue pour photographier des robes. Mais combien de fois on m'a dit ça, quoi?
On les voit, les robes, dans vos photos.
Oui, oui.
On voit les drapés.
J'adore.
On voit les textures.
J'adore la mode.
On voit les matières. C'est presque... Alors, quand elles sont en couleur, comme dans Sublime, c'est comme des peintures.
Oui.
Vous aviez le regard de la peintre, vous le conceviez comme ça quand vous faisiez les photos?
Je crois pas. Non, pas de la peinture. Par quoi? Qu'est-ce qui m'a inspiré? Ben, c'est encore le cinéma.
Ah bon?
Falbala. Qui a inspiré d'ailleurs Lacroix au début, quand il était chez Patou. C'est aussi le cinéma.
C'est aussi le cinéma.
Cinéma, oui. Vacances romaines aussi, l'actrice aussi, qui était toujours très élégante, qui était habillée par Givenchy. Hein. Et ça aussi, c'était important pour moi, quoi. C'est ça aussi, l'inspiration aussi de la mode, c'est ça.
Et puis la Hugues touch, comme on pourrait le dire, oui, et comme le dit Gérard Lefort dans sa préface à Sublime, c'est le cadrage bousculé, basculé, dit-il, le cadrage basculé, tordu, coupé, coudé, qui est votre marque de fabrique.
Oui, ben, y a une photo de moi qui est très célèbre, qui est le pêcheur bozo à Tombouctou, et où le personnage est à gauche, donc le nombre d'or, théoriquement, c'est au milieu, hein. Donc c'est à gauche, tout se passe à gauche. Il y a des photos aussi que j'ai fait en Sibérie, tout se passe à gauche aussi. Et il se passe vaguement un petit truc à droite et au milieu. Et je me souviens de Willy Ronis me disant « Mais Françoise, le nombre d'or, je comprends pas cette photo et tout. » Je lui dis « Bah attends, je fais ce que je veux, hein, Willy. » Ben oui, parce que comme mes photos étaient un peu de travers, hein, évidemment. Voilà.
Ça donnait quoi ces photos de travers? Pourquoi vous les preniez de travers? Pourquoi vous continuez d'ailleurs de les prendre de travers?
C'est une inspiration de cadrage. Vous savez, quand vous faites des photos, vous oubliez tout autour de vous. Moi, je vois le dernier boulot que j'ai fait là, sur l'usine de tunneliers, malgré mon bras qui est un peu en charpie, j'oublie tout, quoi. J'oublie tout parce que tout ce que je vois, et puis c'est
mais
tout
de suite. Mais vous voyez pas de travers?
Non, mais si. Puis j'aime bien voir de travers.
C'est
Gérard Lefort qui dit « Tu vois toujours à gauche, quoi. » Chez Viet Minh, j'étais formée à gauche. Donc Gérard, il dit que je suis formée à gauche, oui.
Qu'est-ce qui reste de ce monde-là, de la mode que vous avez connu dans les années 80?
Je regrette, hein, parce que ils m'ont demandé de faire là, après la pandémie, donc j'en ai fait, c'est toujours formidable. Mais là, je m'ennuie un peu. Je trouve que ça n'a pas... Bon, j'exagère de dire ça, mais les défilés de Gautier, c'était... extraordinaire, il y avait un thème et tout. Il y a un défilé de Gautier où c'est Björk qui a commencé le défilé quand même. Hein. Là, je pense que c'est plus fait pour l'argent et pour que ce soit portable. Tandis qu'avant, aussi bien Thierry que Jean-Paul que Christian, l'idée c'était plus créatif et l'idée c'était pas de vendre. Parce que souvent, la plupart des robes c'était importable. Hein. À part les mannequins, si vous étiez. Très mince, quoi. Maintenant, je pense que c'est plus qu'il faut vendre, quoi. Il faut vendre la robe, quoi. Il faut vendre le vêtement. Il y a moins de création. Alors, je sais pas pourquoi, je peux pas vous expliquer.
Vous évoquiez une de vos photos, Françoise Huguier, le pêcheur de bozo à Tombouctou, sur le fleuve Niger. On en parlera demain, puisque nous allons partir en Afrique, oui. Demain avec vous. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Andreas Jaffré, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.